Nous allons lire un texte dans Luc au chapitre 18 et au verset 9. Nous allons voir quelque chose qui se rattache à ce que nous avons déjà partagé la semaine dernière. Deux personnes qui vont à l'église et qui ont deux attitudes totalement différentes. Dans Luc chapitre 18 et le verset 9, il est dit ceci. Jésus dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu !» Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Vous croyez à cette parole? On y croit d'autant plus que ça sort de la bouche du Seigneur Jésus, mais combien ça fait du bien de voir que le Seigneur est celui qui regarde au fond des cœurs. Et c'est ce qu'on a partagé la semaine dernière, vous vous souvenez, que le Seigneur, il aime cette prière qui n'est pas faite pour frapper les esprits, mais qui est faite surtout pour toucher le cœur de Dieu. Cette prière qui sort de notre cœur et qui arrive jusqu'à son cœur à lui, c'est ce genre de prière-là que le Seigneur aime. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prier à haute voix ou en public, mais quand on le fait de manière publique, il faut que ça soit quand même un cœur à cœur avec Dieu. Il faut que ça soit quelque chose qui s'adresse à Dieu. Si je prie pour m'adresser aux gens, mais c'est pas ce que Dieu demande. Dieu, il attend que je lui prie à lui. Et si je le fais de tout mon cœur, et ça peut même avoir un effet bénéfique pour les personnes qui m'entourent, ma prière peut faire du bien, mais d'abord, elle est adressée à Dieu. Alors, vous vous souvenez que on est dans cette série où on voit que Jésus est sur la montagne, il est en train de donner un modèle de vie chrétienne, quelque chose qui est là. Si on met en application, le Seigneur promet qu'il va manifester sa présence sur des personnes qui marche dans ce style de vie chrétienne. On veut pas une vie seulement faite d'apparence, seulement faite de tradition et de rites, ça c'est pas ce qui nous intéresse, mais on veut cette vie abondante que le Seigneur promet. Et sur cette montagne où il est en train d'enseigner ses disciples, Jésus a choisi de marquer les esprits, d'insister sur trois manifestations concrètes de la foi. Des choses bien concrètes. On est souvent dans la théologie chrétienne et dans tout ce qui est intellectuel, mais là, Jésus, il est très concret. Vous souvenez, c'est quoi les trois choses? Trois choses que Jésus est en train de souligner dans le passage de Matthieu 6. La première, c'est faire des aumônes ou donner, on va dire tout simplement. Donner, prier, et la troisième, jeûner. Trois choses toutes simples et qui ont une importance capitale pour Jésus en particulier, puisque c'est lui qui en parle. Alors, on a déjà vu donner, on va pas revenir là-dessus. On a commencé à voir prier. Alors, on va retourner dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 7. On va prendre la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. Le verset précédent nous parlait que quand on prie, il faut rentrer dans notre chambre, fermer notre porte, et notre Père qui est dans le secret nous le rendra. Il y a une récompense pour celui qui pratique la justice, pas pour être vu des hommes, mais pour être vu de Dieu. Et regardez ce que Jésus dit en continuant ces passages. Matthieu 6, verset 7. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. La prière, premier de ces aspects, enfin deuxième plutôt, si on continue par rapport à la semaine dernière, la prière. Et Jésus, vous avez remarqué qu'il commence en disant cette parole. Et dans le contexte du Notre Père, c'est important de souligner que Jésus dit « Ne multipliez pas de vaines paroles ». Littéralement, ça veut dire « Ne répétez pas sans cesse les mêmes choses ». Juste avant de parler du Notre Père, il dit « Ne répétez pas sans cesse les mêmes choses ». Et on est dans une époque où certains croyants pensent qu'en répétant le Notre Père, ça va amener plus de faveur par rapport à Dieu. Alors que Jésus lui-même a introduit ce Notre Père de cette manière-là. Je trouve que c'est important de le souligner. Parce que des fois, on a certaines traditions et quand on vient dans la parole de Dieu, on se rend compte que c'est pas conforme. On a besoin de faire les choses qui sont conformes à la parole. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, nous devons nous conformer à sa parole, à lui. Les hommes peuvent dire toutes sortes de choses, chacun a le droit d'avoir son opinion, mais si on veut la faveur de Dieu, on doit faire selon la parole. Je peux avoir une opinion sur certains éléments de la foi, mais ce qui est important, c'est que on se fixe sur la parole de Dieu. Et voilà ce qu'a dit Jésus. Ne multipliez pas de vaines paroles. Un exemple très concret et très pratique pour comprendre ce que Jésus a voulu dire, ce qu'il a voulu enseigner au travers du Notre Père. Le Notre Père pourrait faire l'objet d'une étude en lui-même. Hein. On pourrait creuser indéfiniment. Je vous invite à le faire si vous voulez d'ailleurs. Mais on le fera pas nous ce matin. On va le survoler rapidement. Mais Jésus est en train de donner un modèle de prière. Voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit « Voici exactement ce que vous devez prier ». Mais il a dit « Voici comment ». De quelle manière ? C'est la même chose si je vous dis « Voici comment vous devez planter un clou ». Comment ça se passe ? C'est quoi le geste pour planter un clou ? Un marteau dans la main, et c'est quoi ? De haut en bas. Vous êtes d'accord ? Ça ressemble à peu près. On évite de se taper sur les doigts. Mais avec un marteau, je pourrais vous faire un cours magistral. Voici comment vous pouvez planter un clou. Mais est-ce que c'est parce que je connais le geste que forcément le clou va être planté ? Ben, ça dépend de quoi ? À votre avis ? Ça dépend d'où c'est qu'on tape avec le marteau. Parce que si je tape sur tous les côtés, sur toute la planche, mais pas sur le clou, je vais pouvoir pas taper et répéter sans cesse. Vous voyez où je veux en venir. Taper de tous les côtés, ça va jamais planter le clou. Mais si je tape, combien de fois il faut taper sur le clou pour qu'il se plante? À peu près. Ça dépend de la force de la personne. On va dire 2-3 fois, 4 fois, 5 fois, si le clou est résistant. Vous voyez, mais quand je tape sur le clou, il suffit de quelques coups seulement pour qu'ils soient enfoncés. Et l'image de la prière du Notre Père, c'est la même chose. Voici comment vous devez prier, mais notre prière ne doit pas partir dans tous les sens. Et on ne doit pas prier le Notre Père de manière générale sans avoir à l'esprit un but bien précis. Sinon, ça ne sert strictement à rien. C'est comme si on tapait même le marteau dans l'air et le clou ne sera jamais planté. Mais si on veut que notre prière soit exaucée de Dieu, alors il faut vraiment viser, cibler. Être vraiment concret dans notre prière. Et justement, notre Père commence de cette manière, notre Père qui est dans le ciel. Si nous voulons que notre prière soit efficace, nous devons déjà avoir la certitude dans notre cœur que Dieu est notre Père. Parce que si je commence à prier sans avoir cette certitude, alors quelle assurance je vais avoir devant Dieu? Quelle puissance va avoir ma prière? Si je ne sais même pas si je suis sauvé ou pas, comment est-ce qu'il faut faire pour devenir l'enfant de Dieu? Est-ce que c'est compliqué? Jean a dit dans son épître, c'est la même épître que tout à l'heure, 1 Jean, chapitre 5, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Amen. C'est pas beau la simplicité de Christ ? Quiconque croit que Jésus est le Christ, est le Messie, celui qui a été envoyé de Dieu, avec tout ce que ça comporte comme vérité, la croix et la résurrection, il est né de Dieu. Alors déjà, si j'ai cette certitude dans mon cœur, je peux prier. Maintenant, il est dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel, ça concerne pas seulement que ta volonté, mais ça concerne le nom sanctifié et le règne qui vient. Est-ce que vous pensez que la volonté de Dieu, elle est bien faite dans le ciel? Qui c'est qui fait la volonté de Dieu dans le ciel? Il y a Jésus, oui. Qui d'autre? Jésus, bon, c'est le Fils de Dieu. On va dire qu'il est hors catégorie. Les anges, est-ce qu'ils obéissent bien, les anges? Ah ben les anges, ils obéissent très bien, parce qu'ils ne sont pas dans ce contexte-là de la faiblesse humaine. Les anges dans le ciel, dès que Dieu dit un ordre, ils obéissent aussitôt. La volonté de Dieu dans le ciel, elle est faite de manière incroyable. C'est une image pour nous, pauvres créatures terrestres, et nous devons avoir les yeux fixés sur ce modèle-là pour dire, Seigneur, moi aussi. De la même manière que les anges font ta volonté dans le ciel, moi je veux faire ta volonté sur la terre. Est-ce que ce matin, par exemple, quand vous avez prié, vous avez dit, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi dans cette journée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Oh, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre qu'un ange vienne nous voir, hein, justement. C'est pas ça. Eux, les anges, ils ont déjà affaire dans le ciel. Mais en priant de cette manière, en disant, Seigneur, que ta volonté se fasse. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ce matin ou cette journée pour toi? Mais quand je prie de cette manière et que je me mets à l'œuvre, alors je crois que le Seigneur conduit dans sa volonté. Parce que si je ne prie pas, si je ne me positionne pas en disant, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais c'est pas sûr que je la fasse. Il y a un homme de Dieu qui disait, je crois que c'est Martin Luther, qui disait, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, il faut que je passe au moins 3 heures dans la prière pour être efficace. Nous, on réfléchit pas comme ça. Mais je vous le dis, et je crois que Jésus, c'est ce qu'il a voulu nous transmettre par ses paroles. Quand on prie, Seigneur, je veux faire ta volonté aujourd'hui, eh bien le Seigneur nous conduit. Et ça évite bien des déboires. Il y a des fois, on ne sait pas trop quelle décision il faut prendre. Mais quand le matin, je choisis de prendre un temps où je dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Seigneur, je veux que tu sois le roi. Je veux que tu triomphes. S'il y a là un combat dans mon cœur où il y a une tentation et je ne sais pas de quel côté basculer, Seigneur, je crois que tu es celui qui triomphe. Et je veux basculer du bon côté. Je veux me soumettre à toi, à ton autorité. Et si je fais ça le matin, ben le Seigneur est celui qui va manifester sa gloire. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça ne veut pas seulement parler de la nourriture physique, parce qu'on est d'accord, en France, on n'a pas beaucoup de problèmes. Des fois, on dit on a le frigo vide, mais on ouvre le frigo, il y a toujours quelque chose à manger, en fait. Ou il y a des boîtes de conserve dans tous les placards, mais on dit, ah, c'est, j'ai les placards vides. Laissez-moi vous dire, il y a des endroits, j'ai visité des cases en Afrique, dans des villages reculés, ils n'ont pas de frigo. Et la nourriture, c'est ce qu'ils obtiennent dans la chasse. Donc c'est autre chose, quand ils disent « j'ai pas de nourriture », c'est autre chose. En France, on a besoin des fois de prendre un petit peu du recul. Mais c'est pas question de cette nourriture-là, surtout. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est de croire que le Seigneur est celui qui veut pourvoir. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin spirituel dans notre cœur aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un besoin spirituel précis que Dieu veut nous donner? Est-ce que vous tous, chacun personnellement, est-ce qu'on n'a pas un besoin? Et est-ce qu'on n'a pas la foi de dire, Seigneur, je crois qu'aujourd'hui tu vas me communiquer quelque chose. Tu vas me donner cet hamburger spirituel dont j'ai besoin. Ou si vous préférez, cette côte à l'os spirituelle dont j'ai besoin, selon les goûts. Mais vous voyez l'image? Pourquoi est-ce qu'on aime manger? Parce que ça nous permet d'avoir de l'énergie pour faire. Celui qui ne mange pas, il est faible. Celui qui ne mange pas, il est là, il est couché, il ne peut plus bouger à un moment donné. Celui qui mange, il peut affronter les difficultés. Et s'il y a des moments où c'est dur, si dehors le temps est à la pluie, il vaut mieux avoir le corps qui est bien préparé, bien solide. Et spirituellement parlant, c'est la même chose. Quand il y a des tempêtes, quand il y a des difficultés, il faut être capable de dire chaque jour, Seigneur, donne-moi cette nourriture dont j'ai besoin. À chaque fois que j'ouvre la parole, Seigneur, donne-moi cette nourriture. Justement, quand je prie, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, et que j'ouvre pas la Bible de la journée, est-ce que ça va ensemble? C'est pas cohérent. Si je dis, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, et puis que j'ouvre pas la Bible. Mais si j'ouvre la Bible, je crois que le Seigneur est en train de me donner, est en train de me faire du bien. Spirituellement parlant, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des fois des choses que l'on fait dans l'église qui sont pas forcément spirituelles, mais il y a des fois des choses que l'on fait dans nos maisons qui sont très spirituelles et toutes simples. Ouvrir la Bible. En priant, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Quand on parle selon l'esprit, la Bible nous dit qu'on édifie son être. Quand on parle selon l'esprit, notre être intérieur est édifié, renforcé et solidifié. Et on a besoin de vivre ces moments de communion avec le Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus a déjà parlé de quand tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Mais là, ce sont des gens qui nous ont offensés à nous. Et le Seigneur nous dit que quand on est en train de prier, et ça, c'est tous les jours, c'est quelque chose de quotidien, pensons à ce que il y a quelqu'un qui m'a offensé. Et comment est-ce que je me suis positionné par rapport à cette personne? Pardonne-moi mes offenses, comme j'ai pardonné. Pardonne-moi. Est-ce que dans les moments de prière que l'on a, on laisse le Saint-Esprit sonder nos cœurs pour qu'il puisse nous montrer les choses où on a gardé de l'amertume, où on a gardé certaines pensées qui sont mauvaises? Chaque jour, on doit prendre un temps dans notre prière pour dire « Seigneur, je veux passer au rayon X de ta présence. » Vous savez comment c'est les rayons X? Quand on passe devant, on voit le squelette. Le Seigneur n'a pas besoin de ça, lui. Il nous regarde, il voit directement. Mais c'est bien des fois de se laisser regarder. Des fois, on est là, on essaie de se camoufler. De la même manière qu'Adam et Ève, ils étaient dans le jardin et ils essayaient de se cacher derrière les arbres. Est-ce que Dieu savait pertinemment où c'est qu'ils étaient? Est-ce qu'il avait besoin de leur poser la question? Pourquoi il a fait? Pourquoi il a dit « Où es-tu ?» Pour que l'homme se rende compte qu'il était en train de se cacher. Mais Dieu sait très bien. Et la Bible nous dit d'ailleurs que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Et combien nous avons besoin de vivre cette vie chrétienne, cette vie de prière, en ayant à la pensée que nous ne sommes pas cachés devant Dieu et que nous ne devons rien lui cacher, mais que nous devons tous lui montrer, tout lui manifester pour que sa grâce puisse faire son chemin jusqu'au fond de notre cœur. Et s'il y avait quelques racines d'amertume qui étaient là, mais que le Seigneur puisse les enlever. Et des fois, ça prend du temps, vous savez. Quand on a des mauvaises herbes dans le jardin, ça prend du temps pour les arracher. Il faut prendre le temps qu'il faut. Et des fois, il faut laisser au Seigneur le temps qu'il faut pour qu'il laisse toutes ces racines d'amertume et de mauvaises pensées puissent être enlevées de nos cœurs. Et notre temps de prière doit servir à cela. Des fois, j'entends des gens qui me disent « je ne sais pas quoi prier ». Parce que souvent, on est dans la prière mécanique, la prière « il faut que je prie ». Mais des fois, la prière, c'est simplement un temps où je ne dis rien. Et je laisse le Seigneur faire son œuvre dans mon cœur. « Seigneur, je ne dis rien, je ne te demande rien parce que je ne fais que te demander. Non, j'arrête de te demander. Je prends un temps où je expose mon cœur devant toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi? Est-ce qu'il y a une mauvaise relation? Est-ce qu'il y a des mauvaises pensées? Est-ce qu'il y a un péché qui est là que je cultive, que je suis devenu aveugle tellement je vois plus ces choses-là? » Et le Seigneur, dans ces moments, par son esprit, justement, il nous permet de voir, de discerner. Et c'est pour nous bénir. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ce n'est pas Dieu qui nous pousse dans la tentation. Hein, vous savez très bien que ce verset est un petit peu mal expliqué en français. Ne nous laisse pas succomber, ça veut dire plutôt « Seigneur, protège-moi dans la tentation, donne-moi la force. » Justement, si je demande à Dieu le pain quotidien, ce n'est pas seulement pour marcher, mais c'est pour avoir la force aussi de résister par rapport à la tentation. Parce qu'il y a des tentations, il n'y a pas besoin de vous faire des dessins, il y en a partout autour de nous. Et il y en a à l'extérieur, et il y en a à l'intérieur. Quand on voit la parabole du semeur, vous savez qu'il y a des épines qui sont là, qui représentent les séductions, les richesses de ce monde, qui veulent nous empêcher de grandir, mais il y a aussi les rochers, il y a aussi les cailloux qui sont là, qui sont les choses intérieures, et qui nous empêchent également de grandir. Nous devons veiller et dire à Dieu, « Seigneur, je veux qu'encore aujourd'hui, tu me protèges. » Combien c'est bien quand on prends ce temps le matin et qu'on dit « Seigneur, protège-moi, protège mes enfants, protège mon couple, protège ma famille, protège mes personnes que j'aime, protège les frères et sœurs. » Qu'on passe ce temps de prière à demander à Dieu la protection. Est-ce que vous croyez qu'il le fait? Moi, je le crois pertinemment, que Dieu, il entend cette prière. Et des fois, on vit des moments éprouvants et on se rend compte qu'on a oublié simplement de demander à Dieu qu'il nous protège. Au lieu de tourner nos regards dès le matin en disant « Seigneur, protège-moi. » Est-ce que c'est égoïste de demander à Dieu la protection? Ben, c'est Jésus qui nous l'enseigne. Alors on a le droit de le faire. Seigneur, ne me laisse pas tomber dans la tentation. Seigneur, ne me laisse pas, quand je suis au bord de tomber, donne-moi la force de résister. Et quand je fais cette prière, Seigneur, délivre-moi du malin. Mais le Seigneur est celui qui va le faire. Vous savez, des fois, ça se passe de manière très spirituelle, mais des fois, il faut le faire de manière très pratique. Quand on est face à une tentation, quand c'est dans notre cœur ou dans nos pensées, c'est pas forcément en priant qu'on a la victoire. Un pasteur qui dit que c'est pas en priant qu'on a la victoire. Non, mais je vous explique. Des fois, notre prière doit nous amener à bouger. Et quand on sent que dans les pensées, quand on est dans la solitude, il y a toutes sortes de choses qui sont là, qui tournoient dans notre esprit, on a besoin des fois de changer d'air. C'est-à-dire d'aller au dehors, de se promener à l'extérieur, d'aller faire des courses, d'aller courir, faire autre chose qui va nous changer totalement l'esprit, afin que la tentation soit balayée. Amen, vous le croyez ça? Ce sont des choses très concrètes, mais c'est ce que Jésus veut nous dire quand il dit « ne nous induis pas en tentation ». Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Vous aimez qu'on vous dise merci? Quand les enfants vous disent pas merci, vous êtes content? Vous les reprenez? Bon, mais on fait tous pareil. Hein. Pourtant, on a tous été enfants et à un moment donné, on les merci, on zappait un petit peu. Mais on aime quand un enfant nous dit merci, quand on lui fait un cadeau, ou quand on le sert à table, quand on le sert un verre d'eau. Alors, on attend toujours le merci. Et Dieu? Ah non, mais Dieu c'est spirituel, il n'a pas besoin qu'on lui dise merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, c'est spirituel, donc il a encore plus. C'est pas qu'il en a besoin, mais c'est qu'il le mérite. Il mérite notre louange, il mérite notre reconnaissance. Jésus termine cette prière avec ce temps où il s'adresse à son Dieu. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Seigneur, tu es grand, tu règnes, tu es puissant, tu es glorieux. Seigneur, je te bénis, je te loue. Et c'est important dans nos temps de prière de pas seulement être dans la demande, dans l'intercession, même dans la protection pour les autres. C'est bien toutes ces choses, mais il faut que ça soit équilibré. Seigneur, tu mérites ma louange, tu mérites l'honneur. Et quand je dis, Seigneur, tu mérites que ma vie soit offerte en sacrifice, après je peux pas me permettre de faire n'importe quoi de ma vie. Si je dis, Seigneur, tu mérites, je veux t'offrir ma vie comme un sacrifice vivant, je ne vais pas aller après au bistrot prendre des verres pour devenir saoul. Parce que j'ai dit, non, Seigneur, ma vie, j'ai offerte en sacrifice. Ou alors, je ne l'ai pas prié de manière sincère. Et alors, ma prière ne sert à rien. Mais ayons cette prière vibrante et vivante. Et regardez au verset 14, ce qui est impressionnant de voir, c'est que Jésus, il insiste, il enfonce le clou, c'est le cas de le dire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Il vient de le prononcer dans le Notre Père, mais Jésus a choisi d'insister sur cet aspect-là. Pourquoi est-ce qu'il choisit d'insister sur cet aspect? Parce que c'est l'aspect pratique de la prière. Notre prière ne doit pas se contenter d'être quelque chose de théorique. Des fois, on entend des gens qui disent « je prie pour vous » et puis on voit pas le résultat. Il n'y a aucun intérêt, aucune discussion qui est faite par la suite pour savoir si la personne va bien. Moi, j'aime bien quand je dis à quelqu'un « je prie pour vous », c'est pouvoir après rencontrer la personne, discuter avec elle, essayer de l'aider comme je le peux par la suite. Parce que quand on prie pour quelqu'un, il y a un désir de se mettre en action pour la personne. Quand on prie pour quelqu'un avec qui on a du mal à se réconcilier, si on prie de tout notre cœur, il y a un désir, quelque chose, une force qui vient de Dieu, c'est la foi qui nous pousse en avant pour aller se réconcilier. Quand je prie vraiment, si je fais une prière mécanique pour la personne, « Seigneur, tu vois cette personne que je supporte pas, donne-moi de l'aimer. » Bon, si je prie comme ça, ça va pas marcher. Mais si c'est de tout mon cœur devant Dieu, « Seigneur, je t'en supplie, tu vois que je l'aime pas cette personne. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta compassion. Aide-moi à la voir avec tes yeux. » Si je prie de tout mon cœur comme ça, le Seigneur va m'aider. Mais si je reste les bras croisés en disant « Bon, mais Seigneur, maintenant tu me forces à aller la voir. » Mais ça marche pas comme ça. La prière qui est efficace, c'est une prière qui est agissante. Et Jésus choisit d'insister sur cet aspect qui est particulier, qui est concret. L'aspect du pardon. Mais on pourrait le prendre pour d'autres choses. Si je prie, Seigneur, tu vois mon frère, combien il a pas d'argent pour se nourrir. Seigneur, bénis-le, fais-lui du bien. Et puis qu'après, je croise les bras comme ça en attendant que Dieu le bénisse. Vous savez que souvent, quand on prie, le Seigneur, il veut servir de nous pour exaucer la prière. Je vous donne un exemple biblique, parce qu'il y en a qui me regardent bizarrement. Mais je vous donne un exemple biblique. Jésus a dit à un moment donné, priez à ses disciples, il leur dit, priez. Il manque d'ouvriers dans la moisson, priez pour que des ouvriers se lèvent. Est-ce que c'est bien qu'on prie pour que des ouvriers se lèvent? C'est un bon sujet, ça, de prière. Aujourd'hui, en France, on a besoin qu'encore des ouvriers se lèvent. Et on est content de voir qu'il y a des jeunes qui commencent à venir, à vouloir servir Dieu, mais on veut qu'il y en ait encore plus. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, priez qu'il y ait des ouvriers se lèvent. Puis il va passer la nuit en prière, Jésus. Et le matin, alors que les disciples, sûrement, ils ont fait cette prière. Seigneur, envoie des ouvriers, tu vois combien la moisson est blanche, il y a besoin qu'il y ait la récolte qui soit faite. Le matin, Jésus vient les voir et dit, au fait, c'est vous que je vais envoyer. Des fois, on est en train de prier pour que les sujets de prière, Dieu les entende, et puis en fait, Dieu veut se servir de nous. Amen. C'est une bonne nouvelle. Nous qui étions pécheurs loin de Dieu, éloignés de Dieu, le Seigneur est celui qui veut se servir de nous pour glorifier son nom. Mais combien nous avons besoin d'aller dans cette prière pratique de notre Père. Ne doit pas être juste une théorie, des mots que l'on connaît, mais quelque chose que l'on applique de manière personnelle à notre cœur. C'est très bien de le connaître par cœur, que ça permet justement de réfléchir dessus, mais il faut aller plus loin encore, agir. La prière qui est efficace, c'est une prière qui est agissante. Et Jésus termine avec cette pensée, la pratique du jeûne. Ah là, c'est quelque chose qu'on n'aime pas en France. En France, on préfère manger. Mais jeûner, ça, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas très réjouissant à entendre. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Voilà ce qui se passait à l'époque de Jésus. Les pharisiens, pour montrer combien ils étaient spirituels, et vous les avez remarqué dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, le pharisien, il n'a pas oublié de le dire. « Seigneur, je jeûne deux fois la semaine. Tu vois combien je souffre quand je jeûne. Tu vois combien c'est dur, mais pourtant je le fais quand même. Tu vois, Seigneur, combien je suis spirituel, combien je mérite que tu m'exauces. » Mais ça, ça ne plaît pas à Dieu, ça. Ce qui plaît à Dieu, c'est quand on fait les choses de manière secrète. Quand on jeûne, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Ce qui est en train de Jésus est en train d'expliquer, c'est que le jeûne, c'est d'abord quelque chose de personnel et que les gens n'ont pas à savoir si on le fait ou pas. On entend des fois, même des pasteurs, j'ai entendu des pasteurs qui disent « Moi, j'ai jeûné 40 jours. Moi, j'ai fait un jeûne de, comment ils appellent ça, un jeûne de Moïse ou d'Élie, un jeûne de Daniel, j'ai fait tant de jours. » C'est bien, mais quand je lis ce passage, j'ai quand même l'impression qu'il ne faut pas trop se vanter quand on jeûne. C'est quelque chose de personnel. On peut faire des temps de jeûne et prière aussi ensemble, on a le droit. Mais d'abord, le Seigneur est en train de parler là de quelque chose, une pratique qui est personnelle. Alors je veux d'abord l'introduire en disant que il faut être très sage et très prudent. Si on a des problèmes de santé, il ne faut pas jeûner. Il faut demander l'avis à son docteur, savoir si on peut le faire ou pas, si ça ne nous met pas en danger. Vous savez qu'il y a des personnes une personne, je me souviens, qui a mis en danger son enfant parce qu'elle a obligé son enfant qui connaissait Dieu mais qui voulait pas jeûner, elle a obligé à son enfant à jeûner au nom de la foi. Mais ça, c'est de la folie. Quand on jeûne, déjà, ça nous concerne à nous, surtout pas nos enfants. Et puis, il faut le faire avec prudence. Certains jeûnes consistent à seulement s'abstenir de certains aliments. Comme Daniel, justement, vous savez, qui s'est abstenu des viandes sacrifiées aux idoles. Il a mangé que des légumes et de l'eau. Il y a le jeûne normal où on s'abstient de nourriture, mais on boit quand même de l'eau. Il y a le jeûne total. Le jeûne total, il faut être très prudent aussi. Parce que ça, on peut pas rester plus de 3 jours sans boire. Donc, le jeûne dont parle le Seigneur, là, c'est plutôt le jeûne normal où on s'abstient de nourriture. Bon, ça, c'est des aspects très techniques. Mais je vous pose la question parce que c'est quand même 3 aspects que Jésus sur lesquels il nous interpelle. Est-ce que ce sont des choses que nous vivons? Ah, vous inquiétez pas, je ne vais pas venir dans vos maisons pour vérifier si vous êtes en train de jeûner ou pas. Parce qu'en fait, ça nous concerne à nous personnellement. Mais le Seigneur est là en train de dire, voilà, le jeûne c'est quelque chose, c'est une bénédiction. Mais il faut le faire la bonne manière. Il faut le faire avec sagesse, mais il faut aussi le faire selon ce que sa parole nous le dit. Le jeûne inutile, c'est celui du pharisien. Seigneur, je te loue. C'est bien de louer Dieu? Vous êtes content quand vous chantez des louanges au Seigneur? Amen. Mais lui, il dit, je te loue, Seigneur, je te loue. Pourquoi on loue le Seigneur? Parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, parce qu'il a fait des choses merveilleuses. Et lui, il dit, je te loue que je ne suis pas comme les autres. Voilà sa louange. Vous voyez le niveau de la louange, hein? Je te loue que je ne suis pas ravisseur, injuste, adultère. Ou je ne suis même pas comme telle personne dans l'assemblée. Ça, c'est la louange. Où il dénigre son frère qui est à côté de lui. Et vous voyez que lui, il arrive devant Dieu en disant, moi, je fais ça. Je jeûne deux fois la semaine. Moi, je donne la dîme. Seigneur, je mérite. Quand on fait un jeûne en disant, Seigneur, je mérite quelque chose, laissez-moi vous dire que ça ne sert à rien. Il vaut mieux que vous mangiez un bon repas. Parce que jeûner en disant, Seigneur, je vais mériter que tu m'exauces parce que je jeûne, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'on se prive de nourriture que le Seigneur nous bénit. Le jeûne est quelque chose en fait, où on prend le temps que l'on passerait à manger, on le prend pour prier, chercher Dieu tout simplement. Pour être centré sur Dieu. Et on ne le cherche même pas d'abord pour obtenir quelque chose de particulier. D'abord, on veut se connecter avec Dieu de manière plus intense. Et quand on le fait, mais le Seigneur est celui qui nous bénit. La bonne manière, c'est celle qu'on voit dans Ésaïe 58. Vous connaissez ce passage d'Ésaïe 58 ? Le vrai jeûne. Regardez ce qu'il est dit et les promesses qui vont avec, parce que c'est pas tout de parler de jeûner. Souvent, on ne voit que le côté effort, il faut se priver de repas, c'est dur. Mais regardez ce que Dieu promet après. Ça parle de certaines, le peuple d'Israël qui est là, qui faisait des jeûnes de manière régulière, rituelle, mais ils n'avaient plus le cœur. Au verset 3, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Et Dieu, il lui répond, mais voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Et soulignez ce passage. Ça veut dire que quand on jeûne, il y a quelque chose de précis où notre voix est entendue d'en haut si on le fait de la bonne manière. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Voilà aussi un aspect du vrai jeûne. Mon âme, est-ce qu'elle est en train de s'humilier devant Dieu? Courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre. Ça, c'est tout l'aspect visuel. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dieu est en train de dire, mais dépassez ce stade de l'aspect du visuel, de l'apparence, mais humiliez votre cœur. Et là, il prend toutes sortes d'exemples. Si vous jeûnez vraiment, voilà ce que ça va faire comme action concrète dans votre vie. C'est comme la prière. La prière est efficace quand elle agit. Le jeûne efficace, il nous pousse à l'action également. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Comme on parle de jeûne, il nous dit de partager notre pain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais parce que quand je prends du temps dans la prière et le jeûne et que je vois mon frère qui est dans le besoin, ben, j'ai qu'une envie, c'est d'aller partager le peu que j'ai. Je veux l'aider, je veux lui faire du bien. Et regardez la promesse au verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Et on pourrait continuer, lisez tout ce psaume 58, vous verrez pourquoi le Seigneur nous demande de jeûner. C'est pas pour nous embêter encore une fois, mais c'est pour nous faire du bien. Parce que quand on jeûne, quand on prend du temps devant Dieu, quand on choisit de mettre à part ce temps où on devrait être devant l'assiette, mais on choisit de nous mettre à genoux pour dire, Seigneur, je veux recevoir quelque chose de toi particulièrement, je veux grandir avec toi, eh bien, il y a des choses spirituelles qui se débloquent. Est-ce qu'il n'y a pas une porte qui est fermée depuis des années dans votre vie que vous n'arrivez pas à ouvrir? Peut-être que le Seigneur va l'ouvrir pendant ce temps où vous allez vous mettre à jeûner devant lui. Qui sait? Moi, je crois que c'est possible. Moi, j'ai vu des choses se passer quand je me suis mis à jeûner. Alors, je vous raconterai pas les détails parce que c'est pas ça l'important, mais j'ai vu des fois où je me suis mis à jeûner. Oh, j'ai pas fait 40 jours, hein, vous inquiétez pas. J'ai sauté un repas, mais j'ai fait de tout mon cœur. Et il y avait une situation où je pensais que c'était fini. Et le Seigneur a permis. Il a permis que ça soit débloqué. Et j'ai rien fait. Rien fait. C'est Dieu qui a tout fait. La seule chose que j'ai fait, c'est dit, Seigneur, moi je suis incapable d'avancer. Je suis incapable d'ouvrir la porte. Mais toi, tu es spécialiste. Alors, Seigneur, je veux prendre ce temps devant toi. Et le jeûne, ça peut aussi ne pas être forcément la nourriture. Vous savez qu'on est dans un monde aujourd'hui où il y a tellement d'occupations. On remplace le temps que l'on pourrait prendre avec Dieu, on le remplace par toutes sortes d'autres choses. Des fois, le jeûne, ça peut être le jeûne de la télévision. Si je passe beaucoup de temps devant ma télévision, je dis, Seigneur, ce soir, je vous dis pas de prendre la télévision, de la jeter à la poubelle en disant que c'est diabolique. C'est pas ça que je dis. Mais je vous dis, peut-être un soir, au lieu de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, je sais pas, devant la télé. Souvent, on dit, ah, Seigneur, j'ai pas de temps. Et 3 heures le soir, c'est pas mal, hein. Seigneur, j'éteins. Tu prends la télécommande, j'éteins. Cette heure-là ou ces 2 heures-là, je veux les passer devant toi. À lire ta parole, à te chercher. Dans le jeûne, il y a des bienfaits spirituels qui sont nombreux. Ce matin, je vous demande pas de venir écrire sur une liste tous ceux qui s'engagent à jeûner. Je voudrais vous encourager à le faire. Que Dieu vous montre si vous en avez besoin. Il y a une plus grande efficacité dans l'intercession quand on jeûne. Un revêtement de puissance. Quand Jésus est sorti du désert alors qu'il avait jeûné, la Bible nous dit qu'il fut revêtu de la puissance d'en haut. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Seigneur, je veux être revêtu de ta puissance, ton amour, ta compassion, les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit aussi. Seigneur, je veux vivre toutes ces choses. Seigneur, des fois, les accorde par le jeûne, tout simplement. Si j'ai des décisions importantes à prendre dans ma vie, de point de vue matériel, le fait de jeûner avant, ça permet de prendre la bonne décision. Ça permet de laisser à Dieu l'opportunité de nous conduire, de nous diriger. Si j'ai besoin d'une délivrance, quelque chose qui me pèse dans ma vie, si j'ai besoin d'une guérison, si j'ai besoin, comme je le disais tout à l'heure, qu'une situation se débloque. Alors, Seigneur, je veux jeûner devant toi, parce que je crois que c'est ce que tu as institué. Je voudrais terminer avec ce verset, où Jésus rappelle toutes ces choses de manière très synthétique. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Pratiquer la justice, c'est-à-dire donner, prier et jeûner. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Mais quand on fait ces choses, on veut le faire dans le secret de notre cœur. Et Dieu s'est engagé à nous le rendre. Amen. Si c'était moi qui vous faisais le chèque avec ma signature, vous n'iriez pas très loin. Mais c'est Dieu qui a signé en disant, il vous le rendra. Le jour où vous vous mettrez en pratique, ces 3 aspects, ces 3 actions de foi concrètes.